Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Un festival du cinéma américain de Deauville sans américain, une Mostra de Venise prudente et masquée, le cycle des festivals de cinéma reprend, mais timidement. Il faut dire que le moral n'est pas au beau fixe, car la réouverture des salles dans des conditions sanitaires particulières n'a pas encore entraîné le retour des spectateurs, et pas non plus celui des films les plus attendus, à quelques exceptions près. Certains sont encore décalés, d'autres sautent carrément l'étape sortie en salle pour aller directement sur les sites de vidéos à la demande, vu parfois comme la planche de salut par Hollywood. Le cinéma va-t-il être enterré par le streaming? C'est la question du jour. Et pour en parler, trois invités sont avec nous ce soir en studio. Marie Masse-Monteil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice pour Elsevier Film, présidente du Collège Cinéma au syndicat des producteurs indépendants. Et aussi Ava Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-rédactrice en chef de French Mania. C'est une nouvelle revue semestrielle en vente depuis le 2 septembre. Auteur d'essais sur le cinéma et les séries. Vous participez à l'émission Le Cercle sur Canal+. Et on peut aussi vous entendre au micro de France Inter pour une heure en série. Et par téléphone, Chloé Delaporte, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en socio-économie du cinéma à l'université Paul-Valéry, Montpellier 3. Il y a eu le confinement, puis au mois de juin, la réouverture des salles. L'été se termine, on va faire un premier tour de table. Comment est-ce que vous voyez la rentrée? Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est abordée, Marie Masse-Monteil?
En fait, on était assez optimiste, relativement optimiste lors du déconfinement, par définition. En plus, on avait des mesures qui aidaient les exploitants et puis les distributeurs et les producteurs et les incitaient à sortir des films. Finalement, l'été, c'est pas si mal passé. En même temps, il n'y avait pas forcément les titres les plus porteurs, mais quand j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques distributeurs, ils disaient que grosso modo, sur certains films, ils avaient fait à peu près les mêmes entrées que celle qui était espérée. Mais évidemment, il n'y avait pas les films américains. Donc, grosso modo, au lieu d'avoir 4 millions de spectateurs par semaine, on avait à peu près 1 million. Après, Tenet, on attendait tous, évidemment. Finalement, ça s'est bien passé pour Tenet. Mais ça arrive pile au moment où, dans tous les journaux, on dit que ça y est, ça repart, l'épidémie. Donc, il ne nous reste plus qu'à être moyennement optimiste, en fait. Ouais. Essayer de tenir bon, de faire les mesures barrières, les masques. Et puis de se dire qu'on va y arriver.
Ava Cohen, on en parlait justement, les distributeurs avaient beaucoup misé sur Tenet de Christopher Nolan, premier blockbuster après la réouverture. Ça a pris la fréquentation, voilà, on est passé de 4 millions à 1.
Oui, c'est un peu décevant, j'imagine, pour un film de Christopher Nolan, pour un blockbuster qu'on attendait comme le Messie. 1 million, cependant, c'est pas déshonorant. Et puis, moi, je trouve que ça donne quand même, malgré tout, un bon signal. C'est des publics rassemblés, c'est des publics qui vont vers les salles de cinéma. Je ne suis pas du tout désespérée quand je vois l'offre actuelle en salle, qu'il s'agisse du cinéma indépendant, qu'il s'agisse du cinéma d'auteur ou qu'il s'agisse de Tenet. Donc non, moi je suis plutôt optimiste et on en parlait juste avant hors studio. La rentrée des classes est aussi faite en festival et de voir des avant-premières, des films qui vont sortir dans peu de temps, ça réjouit.
Alors ça réjouit, mais quand même, Chloé Delaporte, pas de printemps, un été compliqué, un automne avec un virus qui revient. L'état d'esprit, il est quand même plutôt à la méfiance ou qu'est-ce que vous en pensez?
À la méfiance, je ne sais pas. Je ne voudrais pas casser la vague d'optimisme que je partage par ailleurs. Donc, je ne voudrais pas non plus être la mauvaise voix. Non, je crois que tout le monde attend de voir ce qui se passe. Personne ne sait vraiment. Effectivement, l'été, ça n'a pas été une bonne période pour les exploitants et puis pour le reste de la filière parce que les tournages étaient arrêtés, parce que tout était un peu ankylosé. Mais moi, je partage pour le coup l'optimisme des deux invités. Hein. Il y a des films en salle, des bons films en salle, il y a des entrées. On parle de Tenet, mais il y a aussi plein de films français qui font des entrées honorables, qui font des bons démarrages. Mercredi, on a Police et Normes qui font quand même d'assez beaux démarrages. En même semaine que Tenet, Effacer l'historique, qui a quand même fait plus de 250 000 entrées, c'est pas rien non plus dans le contexte actuel. Donc, je pense qu'il se passe des choses. Après, sur comment est-ce que ça va se passer, effectivement, la réflexion, à mon avis, elle est plus à conduire là-dessus. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va faire la suite? Et comment est-ce qu'on peut accompagner, alors je dis ça en n'étant pas une professionnelle du cinéma puisque je suis une universitaire, mais comment est-ce que l'action publique, comment est-ce que les publics aussi peuvent accompagner la suite des événements?
Et ben les publics justement, le streaming, la vidéo, la SVOD a explosé pendant le confinement, puisque les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux. Ils ont peut-être manifestement pris goût au fait de rester à la maison pour voir des films ou des séries. Est-ce que ça vous inquiète, Marie Masse-Monteil?
En fait, les gens ont l'habitude de regarder des films à la télé depuis bien longtemps. Mmh. Enfin, et même majoritairement, ils les regardent plus souvent à la télévision en étant abonnés, même à Canal, qu'en allant en salle. C'est le deuxième marché évident pour la télévision. Et d'ailleurs, le financement du cinéma français et européen, il est assis sur la télévision historique, on va dire. Donc voilà. Après, évidemment, c'est surtout le développement des plateformes américaines qui nous inquiète, et puis surtout ce qui existait déjà auparavant, c'est-à-dire une appétence qui est là depuis, je sais pas, 4-5 ans, voire une dizaine d'années pour les séries, et singulièrement les séries américaines. Donc le partage du temps de cerveau disponible pour le spectateur ou le téléspectateur, il y a aussi comment il se répartit entre l'offre qu'il peut regarder à la télévision. Mmh. Après, on reste optimiste, bien sûr. On pense que, grosso modo, les gens vont quand même avoir envie de retourner, voir des films avec des gens qu'ils connaissent pas, sur un grand écran et en sortant de chez eux.
Ava Kahane, on parlait à l'instant de la télévision, les gens ont l'habitude de regarder des films à la télévision, et ça s'est beaucoup refait en fait, la télévision a repris pas mal d'importance pendant le confinement, mais avec des films patrimoniaux. Est-ce que c'est patrimoniaux, des traditionnels, des films traditionnels de la comédie française, historique, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est inquiétant pour la création française?
Alors, j'ai envie de dire oui et non, de faire une réponse un peu à la normande. Moi, ça me rassure, en fait. Enfin, je crois que les films sont faits pour être vus. Bien sûr que la salle est indispensable et que quand un film est fait pour la salle, il faut se déplacer pour cette expérience collective qu'est le cinéma en salle. Après, de voir diffuser ces films sur des chaînes de diffusion, voilà, qu'on consomme régulièrement, sur des plateformes, ça amène aussi ces films-ci à de nouveaux publics. Et moi, je peux parler d'expérience. Je dirige un ciné-club à Paris qui s'appelle le Woody Club, où on diffuse des films de Woody Allen. Et j'ai des jeunes publics qui viennent en salle et qui me disent que leur premier contact avec les films de Woody Allen, ça a été sur Netflix, par exemple. Donc ça peut être intéressant pour le cinéma de patrimoine.
Ça peut être une solution, ça, pour faire vivre notamment les films, les salles d'art et d'essai qui le font déjà d'ailleurs largement.
Ça peut. Moi, je pense que la multi-exploitation elle peut pas nécessairement nuire à un film. Enfin, ça peut avoir. Il y a plusieurs publics. Et donc, je crois que pour aller chercher la jeune génération, pour aller chercher le jeune public et aller le ramener en salle, ça peut être une voie intéressante.
Alors, Chloé Delaporte, je ne voudrais pas, à mon tour, casser l'ambiance et ne pas parler de création, mais à la Bourse de New York, Netflix a une valorisation plus de 100 fois supérieure à celle des trois plus grands distributeurs américains confondus, dont le numéro 1, AMC. Le système actuel de distribution et de diffusion a-t-il vécu ou est-ce qu'il est en train de mourir ?
Ça dépend de quel système on parle. Est-ce qu'on parle à l'échelle internationale, auquel cas il y a plusieurs systèmes? Est-ce qu'on parle du système français? Là, vous me parlez des États-Unis, on est encore sur un système différent. Non, je rebondis sur ce que vous dites, sur est-ce qu'il est mort? Est-ce que le système est fini? Ça me fait penser aussi au titre du débat d'aujourd'hui. Est-ce que le streaming enterre le cinéma? Enfin, je ne suis pas convaincue par l'idée de mort, d'enterrer, etc., parce que ça laisserait à penser que ces médias ont une existence autonome, vous voyez, qui vivent, qui meurent, qui disparaissent, et bah non.
Comme la télévision médias, aurait dû enterrer la radio, par exemple.
Ah ouais, voilà. Comme le cinéma aurait dû enterrer la radio. On a beaucoup dit que voilà, ça avait déplacé la télévision, c'était la mort de la radio, etc. Bon, bah,
on est toujours là.
Quand en 1975, Universal porte plainte contre Sony pour la création du magnétoscope en disant que ça va vider les salles, alors qu'ils n'ont même pas encore l'idée que ça va être un marché, en fait, de pouvoir vendre des films directement sur support enregistré, on n'a pas l'idée, personne ne sait ce qui va se passer derrière. Donc il y a des grands mouvements comme ça, un peu catastrophistes. Moi, j'ai pas cette vision-là. Après, je n'ai pas plus de vue du futur que quiconque, mais je pense qu'il faut plus parler de transition, de reconfiguration. Donc les systèmes évoluent, oui. Là, l'enjeu, il est plus sur comment faire en sorte que les acteurs dominants du numérique, mais pas que, participent équitablement au financement de la création. L'enjeu, il est beaucoup plus sur voilà, qu'est-ce qu'on fait compte tenu de cette pas tellement de ces nouveaux usages, hein, parce que ça a été dit, hein, ça fait longtemps que les gens regardent des films de cinéma qui sont sortis en salle sur d'autres écrans. Donc là, d'un coup, pendant 6 mois, ils peuvent plus aller voir de films en salle. D'ailleurs, on voit bien que là, dès qu'ils peuvent le faire, ils le refont, même masqués. Hein, les gens, quand même, on est dans un pays où il y a plus de 200 millions d'entrées en salle chaque année. Donc, Netflix existe avant le Covid. Donc même s'il y a eu une accélération des usages, je ne crois pas que ça signifie la mort de tout ce qui précédait.
Marie Masse-Monteil, les exploitants de salles, ils ont besoin d'un soutien financier, notamment de la part de l'État, pour passer ce cap difficile ?
Les exploitants, d'un côté, oui, mais surtout les distributeurs. Mmh. Parce que c'est vrai que lorsque on a le droit de rouvrir les salles de cinéma, donc c'était en juin finalement, tout de suite on a demandé, enfin les distributeurs et les producteurs d'ailleurs, ont demandé au CNC, au Centre National du Cinéma, d'avoir une majoration du soutien qui pouvait éventuellement compenser en partie la perte de recettes liée au fait qu'il y ait moins de public. Et finalement, c'est pour ça que les distributeurs et nous aussi, les producteurs, on était plutôt contents de ce qui s'est passé cet été, parce que même si, disons, il y a 30% de moins, les recettes ont été les mêmes. Mais du coup, il y a des films comme Les Parfums, par exemple, sorti par Pyramide, qui a bien marché. Effacer l'historique aussi marche très bien. Après, si ces mesures ne sont pas reconduites à partir de fin septembre, est-ce qu'ils vont garder ce que j'appelle les grosses cartouches, que ce soit les grosses cartouches indépendantes, type effacer l'historique, ou les grosses cartouches des studios français? Bon, les Américains, ils ont décidé de sortir, Warner a décidé de sortir Tenet dans certains pays européens et pas aux États-Unis. Mmh. Mais c'est vrai que la plupart des films américains sont
décalés.
Doivent obligatoirement sortir aux États-Unis d'abord. Mmh. Alors le prochain, c'est James Bond. Je ne sais pas s'il pourra sortir.
Est-ce que James Bond va sauver le cinéma le cinéma tout court d'ailleurs? c'est une des questions. Ava Cahen, le risque, c'est que des salles disparaissent pendant cette période, et une fois que les spectateurs seront totalement à l'aise, parce que même s'ils reviennent, il y en a quand même, j'ai vu des sondages, 30% qui disent qu'ils sont un petit peu inquiets. Est-ce qu'il y aura encore des salles pour accueillir ces spectateurs quand ils reviendront? C'est un risque réel.
Je l'espère, oui, c'est un risque réel. Évidemment, on a vu, ne serait-ce que par exemple, le Grand Rex fermer ses portes pendant l'été, ce qui est a priori historique. Donc oui, c'est effectivement un signal très inquiétant, mais je le répète à nouveau, je crois que vraiment le cinéma, il n'y a pas meilleure expérience que de le vivre en salle. Quand on est chez soi, on est distrait, on le regarde autrement, c'est pas du tout la même émotion, c'est pas du tout la même sensation.
Enfin, on s'arrête et puis on reprend un petit peu plus
Absolument.
Tard, évidemment. Chloé Delaporte, comment est-ce qu'on pourrait aider les distributeurs et les exploitants de salles, et je vous repose la question que j'ai posée à Marie Masse-Monteil, à passer ce cap difficile dont on ne sait pas combien de temps il va durer?
Eh ben, en ayant une politique culturelle ambitieuse et bienveillante à l'égard de tous les acteurs de la chaîne. On parle de la disparition des salles, et bien sûr c'est un danger réel, mais le danger qui pèse aujourd'hui, il n'est pas que sur le secteur de l'exploitation. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices, de créateurs, de créatrices qui sont aujourd'hui dans des positions très délicates, et donc il faut soutenir l'intégralité de la filière, parce que si on veut qu'il y ait des écrans, qu'il y ait des films sur les écrans, il faut que les films soient tournés, il faut que les films soient écrits, il faut que les films soient distribués derrière, donc il faut répartir les efforts et il faut essayer d'oublier personne en chemin. Donc là, sur le secteur de la distribution, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, il y en a aussi un certain nombre qui se sont arrêtées je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois c'était 10 juillet, quelque chose comme ça, à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc il y a aussi des mesures dont on a parlé qui ont effectivement aidé à passer le cap du printemps, mais qui ont disparu, ou d'autres qui n'ont pas été vraiment appliquées. Donc je pense qu'il faut aussi les tenir dans le long terme. Et l'un des meilleurs moyens, c'est quand même d'écouter ce que les professionnels et leurs représentants via les syndicats ont à dire, et font comme demande auprès des pouvoirs publics.
Alors Marie Masse-Monteil, comment on arrive à faire vivre une économie de la production dans ces conditions? Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des tournages qui se sont arrêtés, qui n'ont pas vraiment repris, de la post-production qui peut se faire éventuellement en télétravail, mais pas complètement. Comment on fait?
Bon, mais déjà, nous qui avons l'habitude au sein du SPI, avec les autres organisations professionnelles du secteur, de râler tout le temps contre le CNC ou le ministère de la Culture, on peut dire quand même qu'ils ont été réactifs. Commencer par le chômage partiel, c'était la première mesure qui a été prise pour les boîtes et les films qui étaient obligés de s'arrêter. Donc on les a mis au chômage partiel. Moi, ça m'est arrivé sur un tournage. Ensuite, pour la production, bah là, le sujet central, mais ça a été aussi plus ou moins réglé, enfin réglé pour une grosse partie, c'est la question des assurances, puisque le scandale, c'était que les films n'étaient pas assurés pour la pandémie. Et donc, tous les films qui sont arrêtés, bah, c'était pour les coûts de l'arrêt étaient pour les producteurs. Donc, le directeur, le président
Vous n'avez pas eu de solidarité des assureurs,
c'est ça ? Pas vraiment, non. Mais le président du CNC, qui avait travaillé dans une compagnie d'assurance, enfin, qui connaissait bien le secteur, a mis en place un système d'assurance spécifique pour le Covid. Donc, ce qui permet aujourd'hui à pas mal de films de repartir. Bon, alors, c'est plafonné. Hein. Si vous faites un film de 18 millions et qu'il s'arrête, définitivement, c'est un peu vous qui le prenez dans la figure. Puisqu'il y a un plafonnement jusqu'à 1,7 million. Après, il y a une autre question auquel je n'avais pas spécialement pensé, c'est que lorsque vous tournez un film en extérieur dans les endroits où il y a des masques, ben vous ferez des films Covid. À moins d'avoir les moyens d'effacer les masques, mais ça coûtera une fortune.
Ça coûte cher, oui. Effectivement, depuis cette affaire, à chaque fois qu'on regarde un film et qu'il n'y a pas de geste barrière, on est choqué. C'est votre cas aussi, peut-être.
Pas du tout. Au contraire, je préfère.
Quelle est la différence entre les réseaux traditionnels de production et de distribution et les sites de streaming? Est-ce qu'il y a des exigences si on veut travailler avec ces sites-là? Parce que c'est une des façons de produire des films aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des exigences particulières? Est-ce que c'est plus difficile d'aller travailler avec Netflix qu'avec des producteurs
pour les cinéastes?
Ouais.
Je pense que les exigences sont pas du tout les mêmes. Enfin, ce qui est un petit peu pétrifiant, c'est vrai que quand on regarde l'offre sur les différents catalogues de ces plateformes, c'est vrai que parfois ça manque de cinéma, j'allais dire vraiment. Enfin voilà, la diversité de la création, on la trouve peu. On veut faire du hit, on veut faire du cinéma commercial. Là, ce qui est un petit peu perturbant, c'est qu'on a Martin Scorsese qui dit oui à Netflix. On a Casey Affleck et qui avec comme Manchester by the Sea pour Amazon qui remporte un Oscar. On a Noah Baumbach qui se laisse lui aussi séduire. Donc c'est qu'il y a, je crois, un problème de base qui est un problème de financement ou de comment aujourd'hui on aide les artistes, bien sûr, à créer, un problème d'exploitation, un problème de distribution à tout niveau, et que tout d'un coup, ils ont rencontré des interlocuteurs qui leur mettent des billets verts sur la table. Alors, c'est au risque et au péril de l'artiste en question. Parfois, c'est des réussites, et parfois, ce sont des échecs et des naufrages. Voilà.
Oui, Chloé Delaporte, est-ce que il y a un risque de faire disparaître tout un pan de production avec cette émergence et ce développement des sites de vidéo à la demande? Est-ce que il y a un risque de faire disparaître tout un cinéma indépendant d'auteur de création? Ça peut arriver?
Non, je crois pas. Après, ça dépend ce qu'on appelle le streaming. Est-ce qu'on parle de Netflix? Est-ce qu'on parle de Tank? De quelle plateforme on parle?
Oui.
Tout n'ont pas la même ligne éditoriale, tout n'ont pas les mêmes modèles économiques. Certaines sont sur abonnement, d'autres sont sur des paiements à l'acte. On n'est pas du tout sur les mêmes types d'usages, on n'est pas du tout sur les mêmes types de public, de rapport aux biens culturels. Donc en fait, tout ça, c'est des choses très différentes. Et donner une espèce de ligne directrice comme ça qui vaudrait pour tout le temps, à mon avis, c'est très dangereux parce qu'on parle que d'un cinéma très dominant. Il n'y a pas de raison a priori pour imaginer que les plateformes de streaming vont amener la mort du cinéma indépendant. Quand on voit que Netflix acquiert le catalogue MK2, passe des Truffaut, les films qui réussissent aujourd'hui et les films qui font des audiences sur ces plateformes-là, notamment sur les VOD à l'acte, c'est aussi le cinéma de patrimoine dont vous parliez au début. Non. Après, il ne faut pas non plus imaginer, et je ne suis pas du tout en train de vous dire, c'est génial le streaming, ça redonne vie au cinéma, et il n'y a aucune inquiétude à avoir. Si, bien sûr qu'il y a des inquiétudes à avoir et qu'il faut rester vigilant. Mais il faut déplacer l'intérêt ou l'inquiétude. Après, c'est une déformation professionnelle aussi. Je pense que là, c'est vraiment des questions socio-économiques. Comment est-ce qu'on organise cette filière? Comment est-ce qu'on accompagne? Comment est-ce qu'on régule ou pas la chronologie des médias? Ça me semble beaucoup. Enfin, c'est un sujet primordial aujourd'hui pour savoir comment est-ce qu'on protège la production indépendante, la diversité culturelle du cinéma français. La question, elle n'est pas tellement streaming ou pas streaming.
Marie Masse-Monteil, le cinéma français, son modèle de production et de financement, Est-ce qu'il est en train de s'adapter à ce changement? Parce que oui, il y a d'autres plateformes que Netflix, mais c'est Disney, c'est Amazon, enfin celles que les gens connaissent, ce sont de grosses structures américaines.
Bah oui, justement, c'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que en fait, nous en France, on a la chance d'être un grand nombre d'ailleurs de producteurs indépendants, et on produit les films qu'on veut. On est dans une sorte d'économie de l'offre. Après, on va chercher les solutions. On a quasiment jamais l'argent qu'on devrait avoir pour produire le film, mais on se débrouille. On peut faire des films pas chers, des films moyennement chers et tout. Mais en tous les cas, on est le patron avec le réalisateur du film. Le problème, c'est que quand on travaille aujourd'hui, en tous les cas, avec Netflix et les plateformes américaines...
Oui, comment ça se passe?
On est des producteurs, on est des prestataires, c'est tout, quoi. Mm-hmm. On n'a pas du tout le final cut, on n'a pas les clés du camion, on n'a rien du tout. Et on n'a même pas les revenus patrimoniaux du film. On est payé pour fabriquer. Et puis, une fois que le film est fabriqué, nous appartient plus.
Et les droits d'auteur, c'est pas pour vous, c'est ça que vous êtes en train
non,
de...
Non, pas les droits d'auteur, les droits patrimoniaux, c'est-à-dire les recettes subséquentes
à
la première exploitation. Vous avez
vendu le film à Netflix, qui en fait ce qu'il veut, c'est ça que ça veut
voilà,
dire.
Voilà, je suis comme un prestataire. Donc, mais ça peut changer, parce que là, il y a une réforme avec des obligations qui vont être imposées aux plateformes, avec des obligations de production indépendante. Oui. Donc, à partir de, normalement, janvier... Bon, c'est un peu technique, c'est la transposition de la directive de services de médias audiovisuels à la demande. Normalement, les producteurs indépendants de films d'auteurs ou de films commerciaux retrouveront une part de protection de leurs droits, y compris des ayants droit, c'est-à-dire des auteurs et des réalisateurs, sur les œuvres.
C'est quelque chose que vous attendez avec impatience, parce que, enfin, je sais pas, est-ce que là, actuellement, vous, si vous voulez produire un film, vous avez envie de travailler avec Netflix, d'après ce que je comprends?
La réponse
non,
est non.
Hein, bien sûr. Voilà.
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous, on a inventé en France, en Corée aussi, ils ont inventé ça, mais un système où le financement du cinéma, alors c'est un peu particulier avec tout ce qu'on vient de dire, et le socle de financement, il est majoritairement exercé et soutenu par les chaînes de télévision classiques, historiques, qu'elles soient payantes ou gratuites. Et tout d'un coup, bon, c'est vrai qu'elles avaient un peu moins d'argent. Et c'est sûr que les chaînes gratuites privées comme TF1 et M6, elles ont pris quand même aussi les problèmes de pertes publicitaires de façon assez dramatique. Après, Canal+, on les a vus cette année, ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais eu autant d'argent. Parce qu'évidemment, les gens ne se sont pas désabonnés.
Ils ont économisé sur les droits du sport aussi, notamment.
Également, oui, également. Donc voilà, donc nous, on ne veut pas détricoter le système où, effectivement, tout le monde ne fait pas tous les films, toutes les chaînes de télévision ne font pas tous les films. Mais tout du moins, lorsqu'une chaîne de télévision, Canal ou France Télévisions ou Arte, même TF1, participent au financement d'un film, ils disent oui ou non, et après, ils nous foutent la paix, quoi. Mmh. Ils n'imposent pas des réécritures de scénarios, ils n'imposent pas des castings, ils n'imposent pas tout ça. Et on peut être un peu inquiet, même de considérer qu'il y aurait une bouée de sauvetage avec les plateformes américaines. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on risque beaucoup à donner, pour aller vite, les clés du camion du cinéma français à Jeff Bezos, Ad Astor et Bob Iger.
Oui, vous allez vous retrouver plutôt dans la position de Jack que de Rose, c'est à peu près ça l'idée. Vous diriez ça, va quand même.
Ouais, c'est à peu près ça. Non, mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est plutôt l'effondrement du marché du DVD, parce que j'ai l'impression que l'impact direct de ce streaming, c'est ça, quoi. Et là encore, c'est un objet de la cinéphilie, tout comme l'est la salle de cinéma, et on oublie à quel point le DVD, c'est important.
Oui. Chloé Delaporte, alors apparemment, Canal+, est en train dans la négociation sur ses obligations, est en train de dire qu'ils ne vont pas renouveler ou demander le renouvellement de leur diffusion sur la TNT, et que ça entraînera la fin d'une partie du financement du cinéma français. Est-ce que c'est un argument de négociation, ou est-ce que c'est un risque réel?
Voilà, c'est Canal+ qu'il faudrait le demander. Non, je pense qu'il y a un risque réel, que après ça serve aussi d'argument dans la négociation pour essayer de défendre son bout de gras, ça vraisemblablement. Mais non, je suis désolée, je repense à Titanic, parce que quand même ça me
oui.
Dit, il y avait de la place pour deux sur la planche à la fin.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est un grand débat sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'il y avait de la place pour deux, mais bon, voilà, je reprends cette image. Est-ce que les plateformes américaines sont une vraie planche de salut ou pas pour le cinéma?
Non. Non, non. Quand je disais, attention, tempérons un peu l'opposition entre streaming et cinéma, j'insistais bien, Netflix, c'est pas la même chose qu'une plateforme qui, justement, œuvre à la diffusion d'un certain cinéma ou qui va veiller à une certaine ligne éditoriale. Je dis juste que streaming ne veut pas dire grand-chose. À ce moment-là, nommons vraiment les acteurs et parlons des grosses plateformes américaines, parce qu'il y a plein aussi d'acteurs qui travaillent aujourd'hui dans la vidéo à la demande en France, et qui font un super travail pour protéger la diversité culturelle française.
Le site Salto, par exemple, ça peut être...
Oui, Univers Ciné VOD, par exemple, aussi. Ouais. Pendant le confinement, la Cinémathèque aussi a mis en ligne cette plateforme Henri, qui était remarquable. Enfin, non, il y a effectivement des choses qui sont très intéressantes. Ça dépend, encore une fois, de quel public où on regarde. Oui, toutes ces questions, il faut se les poser.
Marie Masse-Monteil, est-ce que vous craignez qu'il y ait... Il y a danger sur l'exception culturelle française actuellement dans le cinéma.
Moi, je me rappelle, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, je me rappelle, j'étais pas née. Je crois que dans la revue des deux mondes, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un mot d'ordre, il faut sauver le cinéma français. Moi, ça fait 22 ans que je suis au SPI et ça fait 22 ans que tous les ans, je me dis, il faut sauver le cinéma français.
Et vous y arrivez?
Bah, pour l'instant, oui. Enfin, on est plusieurs, hein, il n'y a pas que moi.
Ava Kahn, on parlait tout à l'heure de Tenet, de Christopher Nolan, de James Bond qui va peut-être sauver le cinéma le 11 novembre, mais l'un des films sur lesquels comptaient les distributeurs pour relancer la fréquentation, c'est Mulan de Disney qui a décidé de le diffuser directement sur sa plateforme Disney+. Est-ce que c'est un coup dur?
Bon, oui, c'est un coup dur, et puis surtout c'est un coup bas. C'est surtout ça le problème, c'est que évidemment ce sont des films qui sont porteurs, évidemment on a besoin aussi des blockbusters pour faire exister le cinéma indépendant, pour faire exister le cinéma d'auteur. Il y a une taxe, je crois, hein, sur ces films pour aider au financement et à la pluralité, à la diversité du cinéma. Donc oui, c'est assez violent de la part de Disney qui de toute façon n'est pas très bon joueur. Pareil pour le Wes Anderson, il a absolument disparu des radars, on nous annonçait une date, on l'attendait très très fort, tournée à Angoulême, et malheureusement, bah pour l'instant, aucune information.
Chloé Delaporte, il faut que tous ces gens-là arrivent à travailler ensemble, parce que c'est un ensemble, blockbuster, cinéma d'auteur, et les uns soutiennent les autres.
Oui, ce que disait Vakane, ça fait juste, hein, la TSA, elle s'applique à toutes les entrées en salle. Enfin, je veux dire, l'exploitant, il va pas déclarer que tel ou tel film, il a décidé de pas reverser sa TSA. Donc, quand vous allez voir Tenet, vous financez indirectement le cinéma indépendant français. Donc, bien sûr qu'il faut travailler ensemble. Après, c'est pas les bisounours, tout le monde n'est pas assis en train de chanter Kumbaya et de nécessairement n'être là que pour l'amour de l'art. Donc, bien sûr, il faut pas être non plus nigo ou trop optimiste, hein, et être vigilant. Et je reviens vraiment, pour moi, c'est l'investissement et les obligations d'investissement dans le financement de la création, la chronologie des médias et le maintien des mesures d'accompagnement qui ont été rappelées là et qui sont effectivement absolument nécessaires pour protéger notamment les acteurs les plus fragiles, mais pas que.
Marie Masse-Monteil, la chronologie des médias, le film doit d'abord sortir en salle, ensuite en DVD, ensuite passer à la télévision. Où sont les plateformes de vidéo à la demande là-dedans?
C'est le grand débat. En tous les cas, la première chose qui est claire pour les Français et pour le système français, c'est qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'un film de cinéma, c'est un film qui sort en salle. Parce que pour d'autres pays, ce n'est pas si évident. Donc de toute façon, c'est privilégier la salle. Et après, il y a des opinions divergentes. Certains voudraient mettre les plateformes étrangères au même niveau que Canal, indistinctement. D'autres, comme nous d'ailleurs au SPI, on pense que c'est plus intelligent d'essayer de répartir en fonction de la ligne éditoriale. Pas de la consommation, parce qu'elle peut être biaisée, mais en fonction de la ligne éditoriale des plateformes. Mais ça va être l'objet de la grande négo qui démarre là maintenant. Et qui va être d'ailleurs pas mené par nous directement, mais mené par le Centre National du Cinéma et la DGMIC.
Eh bien, merci beaucoup, Marie Masse-Monteil. Merci à vous également, Ava Kahn, d'avoir participé à cette émission, ainsi que Chloé Delaporte, Ava Kahn. Je vais vous donner quand même un petit coup de main. Vous avez cette revue French Mania, une nouvelle revue semestrielle qui est en vente depuis le 2 septembre. Marie Masse-Monteil, vous produisez quoi en ce moment?
Je vais produire un film d'une personne dont on entend beaucoup parler, mais je peux vous dire que ça va être super. C'est Alice Zeniter qui va réaliser son premier long métrage avec son mari Benoît.
Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci également à Chloé Delaporte au téléphone depuis Montpellier. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Laurent Philippot, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet RFI.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. L'info revient dans moins d'une minute sur RFI. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.